Polycarpe insiste sur l'unité de la doctrine dans cette lettre, autrement dit sur la règle de foi, comme par exemple l'avait fait saint Ignace, et sur la charité fraternelle qui doit déboucher sur le service des pauvres. Et là encore, il cite les presbytres et les diacres qui sont conviés, formellement conviés, à participer à ce service. Alors, donc cette lettre est donc intéressante, hein, bien sûr. Elle a peut-être moins de relief que celle de saint Ignace. Il faut dire aussi que celle de saint Ignace, elle est marquée aussi par la proximité du martyr. Hein. Et en revanche, on a de saint Polycarpe son martyr, le récit de son martyr, qui est le plus ancien récit de martyr que nous ayons. Et il daterait, selon Zèbre de Césarée, de 167. Et Polycarpe y déclare avoir servi le Christ depuis 86 ans. Alors on ne sait pas trop si c'est depuis sa naissance, depuis son baptême, enfin probablement pas quand même depuis son épiscopat. Alors on étudiera son martyr ultérieurement avec d'autres écrits de martyr. Alors on passe au grand B. Grand B, c'est autre texte de l'époque post-apostolique, sub-apostolique. Grand A, donc c'était des lettres. Grand B, donc d'autres textes. Alors on a des textes qui sont issus des communautés, petit A. Alors on se retrouve encore en Asie avec Papias de la ville de Hierapolis, ville sainte. Alors ce sont que des fragments, mais qui sont intéressants parce que ça nous donne des informations de première main. Papias, évêque de Hierapolis, avait, comme Polycarpe, entendu Jean à Éphèse. Vous voyez, il avait connu les disciples des apôtres ainsi que les filles de l'apôtre Philippe. Alors là, qui avait justement évangélisé la province d'Asie, une des provinces de l'Asie mineure actuelle. Alors, on ne sait rien d'autre de lui. Et on sait simplement que les notices de saint Irénée et de Zèbre de Césarée sur lui ne coïncident pas. Irénée, lui, voit un disciple de Jean. Il le dit dans l'Adverso Ceresès au livre 5, chapitre 38, paragraphe 4. Alors, il a écrit, d'après l'histoire ecclésiastique de Zèbre de Césarée, un commentaire des paroles du Seigneur en 5 livres, dont il ne reste que quelques fragments que Eusèbe nous transmet. Eusèbe, qui ne l'aime pas beaucoup d'ailleurs, et qui le cite assez peu. Alors pourquoi ? Parce que notre Papias, comme beaucoup d'Asiates, comme Irénée, était millénariste. Et à l'époque de Zèbre, le millénarisme, c'est plus à la mode. Donc, tous ceux qui ont été un peu... Oui, alors donc, Eusèbe... Vous voyez, les époques sont... c'est comme pour Origène. On va lui reprocher d'être platonicien à l'époque où, finalement, presque tout le monde l'était. D'avoir été peut-être trop platonicien, mais... a posteriori, évidemment, la doctrine va se décanter. Au début, c'est une sorte de bouillonnement et il faudra faire un discernement intellectuel aussi. Alors, donc, finalement, Alors, donc on a assez peu de, on a très très peu de choses de Papias, sauf que évidemment Euseb a gardé ce qui était quand même intéressant. Il a gardé les passages qui sont antignostiques, donc contre la gnose. Alors il ne s'appuie donc pas sur les livres qui sont prisés par les gnostiques, que les gnostiques aiment bien utiliser, comme par exemple l'évangile de Saint Jean, l'évangile de Saint Luc. Souvenez-vous que pour Marcion, il n'y a que l'évangile de Saint Luc, les autres comptent pas, et puis certaines lettres de Saint Paul. Mais sur des traditions orales et des éléments empruntés à Saint Matthieu et à Saint Marc, qui sont moins susceptibles d'interprétation, voyez, un peu spéculative. Hein, Matthieu et Marc, c'est plus, plus basique. Et des traditions orales. Alors, les traditions orales, c'est peut-être aussi pour ça que Zeb ne les a pas prises, parce qu'à l'époque, on se battait aussi beaucoup contre les apocryphes. Et donc, il a pu se méfier de l'origine des écrits de Papias, et donc il les a pas, il n'a pas tout gardé. Mais c'est un peu dommage, parce que si c'était des traditions orales véritablement sûres, on aurait appris plein de choses intéressantes sur la première évangélisation. Alors, c'est de lui, de Papias aussi, que nous savons que Marc a mis par écrit la catéchèse de Pierre à Rome. Vous voyez, ça c'est quand même une information de première main. Voilà le fragment en question. Marc, étant l'interprète de Pierre, a transmis avec exactitude, quoique sans ordre, ça fait rire tous les exégètes modernes, quoique sans ordre, tout ce dont il se souvenait des paroles ou des actions du Seigneur. Comme il n'avait pas entendu lui-même le Seigneur, ni ne l'avait accompagné, mais plus tard, comme je l'ai dit, il suivit Pierre. Alors, c'est aussi de Papias que nous savons que Matthieu a d'abord écrit en hébreu ou en araméen son évangile. On a cette petite notation. Matthieu réunit les paroles du Christ en langue hébraïque et chacun les traduisit comme il put. Donc, du coup, notre Matthieu, il est en grec, quoi, hein. Mais donc, ça serait la traduction d'un original hébreu. Alors, vous savez, il y a des exégètes modernes qui, effectivement, essayaient de retrouver, en faisant une rétroversion, l'original hébreu de Matthieu. Alors, il distingue aussi Saint Jean, qu'il compte au nombre des apôtres, d'un Jean, le presbytre, auprès de qui il s'instruisit, et qui pourrait être le Jean qui était à Éphèse, et qui, selon un certain nombre d'exégètes, Benoît XVI en parle, présente les deux théories dans son livre sur Jésus, aurait été le jeune homme qui fait rentrer Pierre dans le palais, parce qu'il aurait été de famille sacerdotale, et converti sur le tard, au moment de la résurrection de Lazare. Et donc, relativement, disons, de grandes familles sadducéennes, sacerdotales, et encore pas trop repérées comme disciples du Christ, donc ayant une liberté de mouvement, lui ayant permis de jouer un rôle important pendant la Passion. En particulier, d'avoir été au pied de la croix sans avoir été inquiété, parce que pas repéré comme galiléen ou comme... vous voyez, donc la théorie de... Parce qu'on nous dit, par exemple, qu'il avait sur sa coiffure, oui, le pétale d'or des prêtres de famille sadducéenne, ce qui paraît un peu improbable pour un pêcheur de Galilée. Hein, mais encore que, disent les autres, les prêtres, comme on le voit avec Zacharie, avaient des périodes de fonction au temple. Et oui, et puis après, ils retournaient sur leur terre ou leurs occupations, en fait. Hein. Alors, pas théoriquement les prêtres, mais disons les lévites.
Et Jean d'Éphèse et Jean de Patmos, c'est tout à fait...
Ah, ça serait probablement le même, parce que là, pour le coup, celui qui a écrit, ça serait précisément ce presbytre, Jean le presbytre. Et quant à Jean l'apôtre, il aurait été comme les autres, il n'aurait rien écrit. Parce qu'il était pêcheur, quoi, et le frère de Jacques, qui au moment où Jésus va peut-être un peu révéler quelque chose de profond de sa passion, a réagi d'une manière complètement décalée et en voulant faire tomber le feu du ciel, donc montrant qu'il n'est pas parmi les plus fins du collège des apôtres. Alors du coup, ça donne un peu plus d'épaisseur à la théorie du Jean le presbytre, sachant que lui, au contraire, percevait les choses d'une manière beaucoup plus intuitive et profonde, et en même temps, certainement, parce qu'il avait aussi toute la formation sacerdotale qui lui permettait de le comprendre, hein, aussi. Et puis, bah, il faut bien voir que Jean, c'est quand même un des noms les plus répandus dans la Palestine de cette époque. Hein. C'est comme Joseph, Jésus et tout ça. Hein. Ce sont des noms qui pullulent à cette époque.
Est-ce que c'est le Jean qui est à la scène aussi ?
Oui.
C'est le même. D'accord.
Oui, parce que dans la théorie de Colson et d'autres, en fait, c'est lui-même qui donne l'indication aux autres apôtres de suivre un homme qui porte une cruche. Voilà, ce qui est vraiment complètement pas normal. Et donc qui leur permettent d'aller jusqu'au cénacle. C'est lui qui prête le cénacle, en fait, parce que c'est typiquement dans le quartier sacerdotal. Et donc, il a un certain nombre de libertés encore, parce qu'il serait certainement un disciple récent et pas encore repéré, et en même temps appartenant aux familles les plus considérables, c'est-à-dire celles qu'on ne va pas embêter.
Et beaucoup plus jeune.
Et beaucoup plus jeune que la moyenne des apôtres. Non. Alors voilà, vous savez, les théories exégétiques, ouais. Sont les théories exégétiques.
Alors, c'est curieux, l'amour préférentiel de Jésus, si c'est un disciple récent, ça paraît curieux.
Et en même temps, un disciple qui semblerait avoir tout compris du premier coup, en somme, aussi, ce qui le rend peut-être plus aimable, en fait. Hein. Et puis, voilà. Alors, vous savez, c'est comme pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hein. Certains pensent que c'est Apollos, d'autres pensent que c'est Barnabé. Donc, on est aussi, comme je dis toujours, le cardinal Vanoy, certainement une de ses premières joies au ciel, ça sera de découvrir qui a été l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur laquelle il a enseigné pendant des décennies et des décennies, en essayant désespérément de trouver qui était l'auteur de cette épître. Donc, c'est lui qui disait dans son cours à l'Institut biblique à Rome, il disait dans son italien un peu traînant, l'epistola di San Paolo a Ibrei non è una epistola, non è di San Paolo e non è a Ibrei. Voilà. Alors, on pense que, en tout cas, l'ouvrage perdu de Papias daterait des années 130-140. Il y a à l'époque du pasteur d'Hermas, quelques années après la mort de saint Ignace d'Antioche. Et après, je vais vous passer un autre texte. Qui est ce qu'on appelle la Didaké? Ça vous dit quelque chose? Alors, la Didaké ou enseignement des 12 apôtres. Hein, Didaké en grec, ça veut dire ça. Doctrine. Alors, attendez, je vais me tromper. Alors, c'est pas la totalité du texte que je vous donne, mais. Voilà, c'est l'enseignement des 12 apôtres. Vous l'avez dans le...
5 euros, s'il te plaît. Les deux.
monsieur.
Sur la Didaké. Alors, cette Didaké, ce texte, il a été retrouvé en 1873, figurez-vous, à Constantinople, où il était partiellement connu grâce à des fragments, c'est-à-dire à des citations qu'en avaient faites différents auteurs de l'Antiquité chrétienne, saint Irénée, Clément d'Alexandrie, Origène, Eusèbe de Césarée. Et c'est probablement le texte le plus ancien que nous possédions sur le christianisme primitif. Quasiment contemporain, mettons, des derniers textes du Nouveau Testament, hein, comme l'Apocalypse ou les dernières lettres de saint Jean. On pense qu'il s'agit d'un texte syrien, d'origine syrienne, et probablement à teneur judéo-chrétienne, vous voyez, venant plutôt de cette branche du premier christianisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Didaké ? Ben, c'est un enseignement et c'est un petit manuel d'instruction chrétienne, d'instruction religieuse pour la communauté chrétienne. C'est une sorte de petit catéchisme.
Écrit en hébreu ?
Non, en grec. Oui. Elle consiste d'abord en prescription générale. Les deux commandements, hein, la première ligne, c'est « Il existe deux voies, l'une de la vie et l'autre de la mort, mais il y a une différence importante entre les deux voies. Hein, » Vous avez l'impression de relire la première ligne du premier psaume. Hein, c'est... Donc la voie de la vie... Tu aimeras Dieu qui t'a créé, puis ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive, toi non plus, ne le fais pas à autrui. Vous voyez, c'est vraiment comme un catéchisme, un résumé de la doctrine. L'enseignement de ces paroles, le voici, donc il distingue. Bénissez ceux qui vous maudissent, citation de l'Évangile. Priez pour vos ennemis et jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Quel mérite, en effet, auriez-vous à aimer ceux qui vous aiment, etc. Donc, vous voyez que c'est exactement des citations de l'Évangile. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas... On est bien dans une littérature subapostolique. On cite comme source déjà ce qui est considéré comme les Écritures dans les communautés chrétiennes. Donc, les deux commandements... les deux voies, les deux commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, la règle d'or, ne fais pas autrui ce que ne voudrais pas qu'il te fasse, puis l'exposé plus détaillé des deux voies, autrement dit la morale, le bien, et puis le mal, un peu comme dans la lettre du pseudo Barnabé, qui est en fait aussi un petit manuel d'instruction morale pour la communauté chrétienne. Puis, donc, pendant les six premiers chapitres, vous avez... les six premiers chapitres, vous voyez, ça ne fait jamais que quatre pages. Hein. Vous avez ces prescriptions morales tirées donc, de l'Écriture sainte, tirées, disons, des évangiles. Puis viennent... chapitre 7 à 10, donc 7 à 10, ça fait jamais que deux pages et demie, des indications précises sur la vie liturgique. Autrement dit, sur le baptême, sur le jeûne et sur l'Eucharistie. Alors, justement, ce sont ces choses-là, parce que c'est un petit peu la première mention que nous avons des rites sacramentels après les Écritures saintes, qui demeurent extrêmement, enfin disons après le Nouveau Testament, qui restent extrêmement allusifs et discrets, hein, sur les sacrements. Alors là, donc,